un groupe de terroristes. Ferme ta gueule! Maintenant t'arrêtes!
De bruit de fureur ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture, il sera question de la Tchétchénie, de Puccini, de documentaires, de cabaret, d'Orson Welles, de Glissando et même de Karl Marx. Avec Michel Hazanavicius qui signe The Search, un film sur le conflit tchétchène filmé caméra à l'épaule mais sans ostentation pour un film de guerre sur l'exode en écho à l'histoire familiale du cinéaste Benoît Lagan.
Et avec The Search, l'auteur d'OSS et de The Artist, marqué enfant par le film Le Troisième Homme, change de registre afin de se confronter en toute subtilité à la représentation de la guerre, la mort et la violence.
19h30, le questionnaire autoportrait du lundi, ce soir le reporter de guerre Patrick Chauvel. 19h35, plateau opéra pop avec Frédéric Verrière pour la partition de Mimi, scène de la vie de Bohème, une réécriture par Glissando de l'opéra de Puccini, Lucille Como.
Il sera accompagné par deux musiciens de la production, Caroline Rose et le pianiste Jean-Yves Ezik, qui interpréteront l'air de la comtesse.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Sfez, que l'on ouvre bien sûr avec le son du jour.
Je peux tout dire devant mon chancelier, il partage mes secrets. Certains ne vont-ils pas jusqu'à dire qu'il partage aussi mon lit? Mon neveu a, paraît-il, un grave malheur à nous apprendre.
Hélas, ma tante.
Diable, pour la première fois, tu m'inquiètes. Il faut que tu sois bien sûr de ton coup pour faire ainsi durer le plaisir. Eh bien, parle! Tu meurs d'envie que je te le demande!
Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
On ouvre avec votre son du jour et il ne date pas d'hier.
Et non, jamais. Extrait de la série télévisée Les Rois Maudits de Jean-Pierre, grand succès de l'ORTF en 1974, dans lesquels Hélène Duc interprétait l'impitoyable Mao d'Artois. Hélène Duc qui s'est éteinte dimanche à 97 ans. Elle avait été très affectée par la disparition l'an dernier de sa fille Elisabeth Catroux, elle aussi comédienne. François Hollande a salué la mémoire de celle qui fut l'une des grandes dames du théâtre, du cinéma et de la télévision donc française. C'est au théâtre qu'elle a commencé avec Louis Jouvet et Charles Dullin. Son grand rôle de prédilection au théâtre, c'était celui de Mère Courage et ses enfants de Bertolt Brecht qu'elle a repris trois fois très longuement. Et à la fin de sa vie, Étienne Châtillies lui avait offert un rôle splendide de vieille belle-mère acariâtre dans Tanguy.
Qui je suis ? En une minute et demie ? Mais enfin, c'est impossible. À moins que, après tout, je ne sais pas, je pourrais dire oui, bien sûr, oui. Je pourrais dire que ma carte nationale d'identité, qui a été délivrée par la préfecture de Paris, porte le numéro 80 578. Et quoi d'autre encore? Je ne sais pas. Oui, peut-être ma carte d'électeur, qui, elle, porte le numéro 0556 et qui a été délivrée lors des dernières élections.
Il en ouvre le dossier du jour sur cette voix, la voix de Bernard Heitzig, lui aussi disparu ce week-end à l'âge de 86 ans, l'un des pionniers de la poésie sonore, plus largement de la poésie debout, comme il l'aimait à l'appeler.
Exactement, Bernard Heitzig est un contemporain des beatniks, proche et ami notamment de William Burroughs. Après avoir publié un premier recueil de poèmes au début des années 50, mais en France, il va radicalement réveiller la conception de la poésie, comme l'explique Éric Mangion, directeur de la Villa Arson à Nice.
D'abord, c'est quelqu'un, Bernard Heitzig, qui fait partie de toute une génération d'artistes poètes qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire dans les années 50, ont complètement revivifié la poésie. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait renaître, et qu'ils l'ont redynamisé avec des nouveaux moyens, et notamment les instruments sonores, mais aussi qui l'ont rendu vivante, debout, comme ils disent, c'est-à-dire qu'ils l'ont rendu extrêmement publique pour la faire sortir du livre, en fait. Elle est devenue active, c'est-à-dire qu'elle est devenue objet de conversation, objet de discussion, objet de performance, objet de présentation au public. Et ça, ça a complètement révolutionné la poésie dans les années 50.
Et de fait, les premières créations sonores de Bernard Heitzig s'intitulent « Poème partition ».
Oui, il les dit debout, il se sert d'un agra pour s'auto-enregistrer et il les donne en public, un peu comme une performance. Il développe ensuite tout un travail sur les séries avec les biopsies entre 66 et 69 et les 29 passe-partout, dont le poème « Vadouze » en 74, qui va être un peu son hit, qu'il dira, qu'il lira partout dans le monde jusqu'à la fin de sa vie. Un travail qui va profondément marquer toute une génération de jeunes auteurs français qui vont progressivement investir le champ de la poésie sonore, parmi eux le poète et performeur Anne-James Chaton.
j'avais déjà une acquaintance avec l'écriture poétique et l'écriture sonore, mais ce lien que Kaïdzik faisait avec l'agir poétique, c'est-à-dire ce temps où dans un espace public, on donne un texte devant une audience qui peut être très diverse, parce que Kaïdzik disait dans des lieux très, 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 très différents. Donc c'est vraiment le fait que je l'ai vu, tout simplement, un jour, lire La Doute. Quand vous entendez, quand vous êtes jeune écrivain, que vous êtes en présence de Kaïdzik qui donne La Doute, c'est une véritable expérience dans tous les sens du terme, expérience poétique et au-delà.
Reconnu très tôt aux États-Unis, le travail de Bernard Kaïdzik va peu à peu être redécouvert et il sera consacré en France à la toute fin des années 80.
Oui, alors il y a d'abord cet essor de la génération qui va investir la poésie sonore. Il y a aussi un Grand Prix national de la poésie en 91 et une appropriation de son travail qui va au-delà de la scène littéraire, comme l'explique Éric Mangion, directeur de la Villa Arson de Nice, qui lui a consacré plusieurs expositions.
Ce qui est très particulier avec lui, qui peut-être le différencie de ses contemporains, c'est la plasticité de sa voix, de la texture de ses textes, ainsi que sur son souffle. Sa poésie est devenue très plastique. C'est pour ça qu'elle a beaucoup intéressé des artistes plasticiens et qu'elle est devenue même un objet d'exposition, comme ça a été le cas il y a 4 ans à la Villa Arson dans laquelle je travaille.
Et voilà, je signale par ailleurs la sortie, il y a à peine un mois, d'un documentaire, Bernard Kaïdzik, la poésie en action, réalisé par Anne-Laure Chamboissier et Philippe Franck, qui sera bientôt disponible en DVD.
Et l'on passe tout de suite aux brèves, Zoé.
Et l'on ouvre avec cette plainte de l'association de défense de consommateurs français, CLCV, contre le géant américain de la VOD, Netflix, arrivé en France il y a 2 mois maintenant, pour non-respect du droit français du consommateur. Selon l'association, Netflix ne respecte pas le droit français, avec notamment, dans ses conditions générales, Netflix qui se permet de changer les conditions du contrat sans en informer son consommateur, ou encore de résilier votre contrat s'il considère qu'il y a, je cite, une utilisation illégitime du service, clause bien trop qui peut donner lieu à de multiples interprétations. Pas de commentaires du côté de Netflix pour le moment.
Le musée des Beaux-Arts de Berne accepte à contre-cœur une partie de la collection d'art de Cornelius Gurlitt.
Exactement, collection controversée puisque Cornelius Gurlitt, c'était le fils d'un marchand d'art chargé par les nazis de confisquer les œuvres d'art aux dégénérés, c'est-à-dire les juifs. Il était en possession d'une très grande collection inouïe d'œuvres spoliées. Donc, et à sa mort en mai dernier, il a désigné le musée de Berne comme légataire universel. Le musée qui s'est retrouvé extrêmement embarrassé, qui a mis donc 6 mois à finalement accepter cette collection tout en s'engageant à tout faire pour restituer le plus d'œuvres d'art possible aux descendants des victimes.
Et la dernière ?
Et la dernière, c'est une histoire de chansons, de bonne volonté, mais de résultats un petit peu hasardeux. Alors vous vous rappelez, je vous avais parlé d'une chanson collective contre Ebola qui s'appelait Africa Stop Ebola, avec des chanteurs africains qui donnaient des conseils pratiques dans une chanson pour lutter contre le virus. Et bien voilà, il y en a une autre qui est sortie en Grande-Bretagne à l'approche des fêtes de Noël et qui est très polémique. C'est ce cher Bono, pionnier de la chanson humanitaire, on va dire, d'un goût assez incertain, qui a encore frappé. Il a repris le thème et la structure de sa chanson « Do they know it's Christmas », qui était une chanson qu'il avait sortie dans les années 80 pour alerter sur la famine en Éthiopie. Déjà, à l'époque, elle avait été considérée comme assez condescendante, voire un petit peu méprisante sur le thème « Ces pauvres gens ne savent pas que c'est Noël, ces pauvres gens n'ont pas à manger, il faut qu'on les aide, etc. » Rebelote depuis le 17 novembre dernier, une nouvelle bande baptisée le Band Aid 30, avec notamment le boys band One Direction et toujours lui, Bono, en tête de file, dévoile une nouvelle version d'ancien single avec cette fois-ci, quelques paroles qui changent. On trouve notamment la seule eau qui coule et la piqûre amène des larmes. Lorsqu'un baiser d'amour peut vous tuer. Ou alors, Dieu merci, ce sont eux au lieu de nous. Voilà. Et voilà. Donc là, on a un truc de tellement mauvais goût que finalement, Lily Allen et Damon Albarn sont sortis du bois pour dire qu'ils ont été obligés de refuser de participer à cette version en expliquant qu'ils ne pouvaient pas cautionner une vision aussi ethnocentrée et misérabiliste de l'Afrique, en fait. Mais le concept, attention, n'est pas que pour les Anglais. Il arrive en France. Il a été donc repris avec une bande qui se constitue autour d'eux. Carla Bruni, Renaud a déjà accepté. Nous aurons donc la même chanson, le même air, avec les mêmes paroles en français d'ici très bientôt.
Est-ce qu'il y a des réactions à ce que l'on vient d'entendre de la part de nos invités, Michel Hazanavicius, Frédéric Verrière, Caroline Ro... Non ?
Moi, je ne m'aventurerai pas
À venir chanter ?
Ah non, à venir chanter, certainement pas. Non, mais même à juger, mais j'écoute avec beaucoup d'attention. Mais...
Netflix, peut-être une réaction par rapport à Netflix, vous, réalisateur ?
Bah, ce qui a été dit là, non. Enfin, j'imagine que c'est sur des petites clauses et des choses sur la nature des contrats. Ce qui est compliqué avec les opérateurs d'Internet, c'est la législation où, suivant le lieu du siège social, la loi n'est pas celle du consommateur, du pays du consommateur. Il y a quelque chose qu'il faut régler là, je pense, assez urgemment. Hein.
Et plus généralement, vous, votre position par rapport à Netflix ?
Moi, je n'ai pas de position agressive. Je ne pense pas du tout que ce soit le monstre présenté. À l'inverse, c'est pas non plus. Ce serait bien qu'il s'intègre dans le mode de fonctionnement du cinéma français. L'offre n'a pas l'air si géniale que ce qu'on nous avait dit. Ça a l'air surtout d'être des gens du marketing pour l'instant.
Oui, l'offre de Netflix est assez nulle en fait. Il n'y a carrément pas grand-chose. Ouais. Hein. Même aux États-Unis, certaines plateformes, on dit souvent que par exemple pour les séries télévisées, Netflix est en avance. En fait, pas du tout. Il y a d'autres plateformes beaucoup plus poussées aux États-Unis même. Donc c'est beaucoup
de
marketing.
Mais en général, je pense que comme tous les réalisateurs, nous on est très contents quand il y a des endroits où on peut diffuser nos films. Ça, on n'est pas contre.
19h20, rendez-vous. Le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Plateau classe américaine avec vous, Michel Hazanavicius, réalisateur, scénariste, producteur. Après The Artist, c'était en 2011. Vous retrouvez Bérénice Bejo dans The Search, c'est votre 5e long métrage qui sortira en salle mercredi prochain. Changement de registre, puisque c'est un film de guerre, on est en 1999. C'est la deuxième guerre, le deuxième conflit en Tchétchénie. L'histoire s'articule autour de trois personnages dans ce conflit. Il y a Kolia, un jeune russe de 19 ans, transformé en soldat bête de guerre. Il y a Hadji, un garçon tchétchène de 6 ans, en fuite après que sa famille a été assassinée par les Russes et sa sœur part à sa recherche. Et puis il y a Carole, jouée par Bérénice Bejo, qui est chargée de mission pour l'Union européenne dans une ONG qui va tenter de témoigner de l'horreur de cette guerre face à l'indifférence de la communauté européenne. Bande annonce.
Là, tu vois, on vient d'arrêter un groupe de terroristes. Ferme ta gueule ! Maintenant t'arrêtes !
Depuis le début, les témoignages font état d'une violence inhumaine. Des villages entiers sont bombardés. Des familles entières sont décimées.
Hadji !
Imaginez ce qu'on est en train de leur mettre dans la tête.
Vous pensez qu'on fabrique de futurs combattants ?
Je n'en sais rien. Chacun d'eux écrira sa propre histoire. En général, les enfants sont pris en charge par la communauté.
Sur quoi l'Union européenne devrait-elle agir en premier ?
Tout ici n'est qu'urgence. Les gens ont besoin de tout.
Tu veux venir ? Ça fait quelques jours que j'ai un petit gamin à la maison.
C'est merveilleux.
Oui, mais je ne suis pas sûre d'être à la hauteur. Vous pouvez m'aider ?
Michel Hazanavicius, à l'origine de votre film, il y en avait un autre qui date de 1948, c'est The Search, même titre, de Fred Zinnemann, qui racontait l'histoire d'un petit garçon qui sort des camps et qui rencontre un GI dans les ruines de Berlin. Qu'est-ce qui vous avait marqué précisément pour que vous ayez envie de reprendre l'esprit de ce film et le titre plus de 65 ans plus tard ?
En fait, ce n'est pas tout à fait à l'origine que se trouve le film de Zinnemann, mais il est sur la route et il a un rôle très important. À l'origine, il y a l'envie de parler d'un sujet, lourd, important et grave. Mmh. Et un réalisateur, moi en l'occurrence, qui fait plutôt des comédies et qui est un peu impressionné par le... J'étais un peu impressionné par le sujet, ou en tous les cas, je me posais des questions de légitimité. Et c'est à ce moment-là qu'arrive le film de Zinnemann et qui me propose un cadre qui me plaît énormément, c'est-à-dire comment en 47, un réalisateur arrive à parler d'un sujet difficile, vous l'avez dit, les camps de concentration, et arrive à faire un film populaire, arrive à faire un film accessible. Et en fait, je me rends compte que c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire un film pour les gens, j'ai pas envie de faire un film pour les spécialistes. Un film humain, un film touchant, bien qu'il ait un sujet au départ difficile. Donc c'est pour ça que on a pris les droits de ce film-là, ce qui n'était pas une mince affaire parce que ça coûte beaucoup d'argent, mais ça m'a permis d'avoir les mains libres et d'être complètement décontracté par rapport à ce film-là.
Ce sujet, on vous l'a proposé ou c'est vous qui est allé ?
Non, c'est moi qui suis allé. Je ne vois pas bien qui me l'aurait proposé, je vous avouerai, parce que ce n'est pas le sujet qui...
Non, mais justement, parce qu'après tant de comédies, d'aller vers ce sujet-là, je me demandais, est-ce que ça avait été un film de commande au départ, ou véritablement, c'est de votre propre initiative que vous allez vers un sujet aussi frontal ?
Non, c'est de ma propre initiative, vraiment. Je crois que c'est le genre de film qui peuvent naître que d'un désir de réalisateur ou de scénariste, mais ce n'est pas des films de commande. Donc c'est vraiment moi qui, à un moment donné, par la force des choses, par la vie, était amené à m'intéresser un peu plus que de normal à ce sujet.
Justement, quel a été l'élément déclencheur pour tourner un tel film ?
L'élément déclencheur, ça a été la coproduction et co-écriture d'un documentaire sur le génocide rwandais, le génocide des Tutsis. Et à cette occasion-là, j'ai rencontré le fils d'André Glucksmann. On a commencé à travailler ensemble. J'ai rencontré la famille Glucksmann et j'ai rencontré des Tchétchènes. Et j'ai eu un rapport qui n'était pas le rapport qu'on peut avoir au fil de l'actualité. J'ai eu un rapport humain avec cette histoire-là. Et c'est ce qui a généré l'envie de faire un film.
Benoît Lagan.
Et vous ouvrez votre film par un vrai geste de cinéaste, un plan séquence tourné avec une petite caméra vidéo. Elle est tenue par un soldat russe qui filme son arrivée dans un village et l'assassinat d'une famille tchétchène. En réalité, c'est vous là qui tenez la caméra. Pour quelle raison aviez-vous besoin justement de passer par une telle forme pour filmer la violence ? Parce que vous dites que c'était un problème pour vous de filmer la violence aussi directement.
Oui, la représentation de la violence, la représentation de la mort, de la cruauté, de l'insupportable. C'est des questions qu'on peut éluder ou avec lesquelles on peut jouer quand on est dans un film pop. Tarantino est le champion toute catégorie de ce type de représentation. Là, le sujet m'a imposé une forme de sobriété ou de dignité, ce que moi j'ai essayé de considérer comme étant digne. Et donc se posent des questions morales sur la représentation de la mort. Et donc, avoir des acteurs qui font semblant de mourir, bien éclairés, bien découpés, etc., ça aurait eu pour moi, avec de la musique dramatique, ça aurait eu pour moi un effet contraire à ce que je voulais faire. Donc j'ai toujours essayé de me poser la question comment je vais représenter ça. Et là, je trouvais que de passer par l'œil du soldat, qui sont des images que l'on connaît, qui sont des images que l'on a vues et dont on sait qu'elles existent, et qui sont même aujourd'hui considérées comme des trophées de guerre par les soldats, je trouvais que c'était une manière de se poser la question de qui parle, qui montre, et la question du témoignage.
Michel Hazanavicius, vous êtes d'origine juive askénaze, et pour vous, parler de l'exil et de la guerre, c'était un moyen indirect d'évoquer ce qu'a pu connaître votre famille. Dans un entretien, vous aviez déclaré que le scénario était d'ailleurs traversé de réminiscences du génocide juif. Comment expliquez-vous ce besoin de passer par un conflit et un exode récent dans l'histoire ? Est-ce que vous n'auriez pas pu aborder, par exemple, frontalement, l'histoire des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale ?
Non, j'aurais pas pu. D'abord parce que ça m'intéresse bien moins d'en parler que de parler de sujets actuels aujourd'hui.
D'actualité récente.
Bien sûr, les Tchétchènes...
Ce que fait très peu d'ailleurs le cinéma français.
Ouais. Exactement, et puis je trouvais que... si vous voulez, le devoir de mémoire, c'est une chose. On peut aussi parler du devoir d'oublier, c'est-à-dire à un moment donné, sortir de cette histoire, ou en tous les cas, ne pas s'y confronter systématiquement. Moi, il y a des choses que je pense avoir complètement intégrées, mais pour moi, intégrer ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est plutôt m'intéresser à une population, en l'occurrence musulmane, mais c'est les leçons que j'ai tirées de cette histoire-là. J'ai absolument pas besoin de re-raconter cette histoire-là, je pense que les gens la connaissent bien, et alors que les gens ne savent pas ce qui s'est passé au Rwanda, les gens ne savent pas ce qui s'est passé en Tchétchénie, les gens ne savent même pas ce qui s'est passé en Algérie, et je crois que la manière que j'ai eue de digérer cette histoire-là, c'est ça.
Benoît.
Je parlais de cette scène introductive tout à l'heure et le film s'ouvre plus précisément par un écran noir et la voix de ce soldat russe, ton vidéaste amateur, qui hurle « Merde, putain, pourquoi ça marche pas ?» Et vous expliquez ce choix, j'aime bien l'idée de commencer le film par un échec.
Oui.
C'est-à-dire, Michel Hazanavicius ?
Parce que c'est des trucs de cinéma absolument très classiques, mais j'aime bien que dans les premières images, vous donniez la clé de ce qui va se passer. Ce qui se passe pour ce jeune homme, c'est un échec. Il n'y a pas d'héroïsme, ça ne marche pas. Cette histoire ne marche pas. Et j'aime bien dans les deux. J'avais fait un peu le même procédé d'une manière beaucoup plus comique dans The Artist, où j'avais commencé par une fausse scène de torture avec le personnage qui disait « je ne parlerai pas, je ne parlerai pas ». On voulait le faire parler, Et donc j'aime bien cette idée de donner comme ça, dès le début, deux, trois clés un peu inconscientes, mais qui permettent après de comprendre un peu différemment l'histoire. Ouais.
Quelque chose de vraiment très intéressant dans le tournage, c'est que vous avez pratiquement tout filmé, je crois, caméra à l'épaule. Mmh. C'est intéressant parce que jamais vous n'appuyez cet effet de tournage, comme on peut voir par exemple ailleurs. Jamais c'est de dire, regardez, je filme comme un documentaire de guerre. Comment vous avez véritablement travaillé ça pour que on n'ait pas cette impression pendant le film?
En fait, c'était un des enjeux formels du film, c'est-à-dire comment on peut être assez respectueux du sujet, c'est-à-dire pas faire n'importe quoi avec le sujet du cinéma à tout prix, et en même temps ne pas sacrifier ce qu'est le cinéma. Les gens viennent voir un film avant tout. Donc tout l'enjeu était là. Donc je suis parti de l'image mentale collective que les gens peuvent avoir de la Tchétchénie, à savoir c'est essentiellement des images de reportage qui sont filmées avec des petites caméras comme ça à l'épaule. Je suis parti de là et partant de là, avec un peu des couleurs qui correspondent à ça, partant de là, j'ai accepté l'idée de faire du cinéma, tant au niveau du scénario, donc en intégrant du romanesque, en intégrant de la fiction, qu'au niveau du filmage, c'est-à-dire avec des plans qui sont malgré tout assez sophistiqués, même si l'idée n'est pas de faire... Le film n'est pas du tout tape à l'œil, mais il y a une structure, un filmage qui sont... Enfin, pour moi, à mon niveau, un peu sophistiqué.
Justement, à propos de ce tournage et de l'image.
Oui, vous souhaitiez donc d'un côté une vraie image de cinéma et de l'autre, vous demandiez systématiquement à ce que l'on enlève, je vous cite, tout ce qui faisait Cinoche, les lumières trop jolies. Et je sais que pour cela, vous êtes passé par un développement de la pellicule sans blanchiment. Oui. En quoi consiste ce procédé?
C'est un procédé de développement qui, c'est assez technique, je ne pourrais pas exactement vous dire, mais on arrive finalement avec un négatif qui est beaucoup plus cru, qui est beaucoup plus contraste et sur lequel vous avez finalement moins de marge quand vous passez après en étalonnage numérique. Donc c'est des choix, mais ça vous donne aussi un modelé sur les peaux, ça vous donne une texture qui est très, pour moi, très à la fois dure mais très proche de l'humain. C'est exactement ce que je voulais. Le soldat Ryan, par exemple, a été tourné comme ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui la tendance est plutôt, d'une part, de tourner en numérique, nous on a tourné en film, mais d'aller plutôt vers une image relativement neutre qu'on peut retravailler numériquement après. Moi, j'avais vraiment à cœur de faire un film, j'ai employé le mot là plusieurs fois, mais de faire un film bio, c'est-à-dire un film avec très peu d'effets numériques, un film un peu à l'ancienne. Il y a un moment, un immeuble qui brûle, on a réellement fait brûler un immeuble, il y a des gamins sous un hélicoptère, on a vraiment mis des gamins sous des hélicoptères. C'est pas des effets spéciaux à tout bout de champ, pas du tout.
Alors chaque soir, nous demandons à nos invités de nous soumettre une idée de son qui les a marqués, et voici ce que vous avez choisi, Michel Lanzini. Was blue and high above, the moon was new and so was love. This eager heart of mine is singing, lover, where can you be? Identification de ce son, d'ailleurs, Frédéric Verrière se demandait ce que c'était, Michel Hazanavicius.
C'est une chanteuse qui s'appelle Mildred Bailey. Ouais. Et en fait, vous m'avez demandé un morceau. En ce moment, c'est un des morceaux que j'écoute. Et je le trouvais joli et ça m'a semblé suffisant.
Un charme fou.
Ouais. Très, très, très belle mélodie et très belle chanteuse.
Pour la musique du film, justement, pour que ça ne fasse pas trop cinoche, quelles étaient les pistes que vous avez données pour le compositeur?
Eh bien, il n'y a pas de compositeur. J'ai trahi mon compositeur.
Ah ouais, justement.
Et non, je ne voulais pas de ce qu'on appelle le score. Je ne voulais pas de musique de film. Mais par contre, j'ai quand même intégré dans le trajet de l'enfant dont vous parliez, qui est le trajet d'une résilience, c'est-à-dire un gamin qui commence par un traumatisme et qui va revenir petit à petit vers la vie. J'ai intégré le fait que lui écoutait de la musique sur l'appareil de la jeune femme qui l'accueille, à savoir le personnage joué par Bernice Bejot, et donc il écoute des morceaux. Mais comme je voulais pas un film qui baigne dans la culture tchétchène de bout en bout avec de la musique référente, etc., ça m'a permis justement d'ouvrir et de donner au film un truc un peu plus large que ça. C'est-à-dire qu'il peut aussi bien écouter de la musique brésilienne que des morceaux italiens, que j'ai même réussi à mettre Colette Magny dans le film, ce qui n'est pas une mince affaire. Et voilà, donc c'est une vision...
Pourquoi ce n'est pas une mince affaire de mettre Colette Magny, chanteuse?
Bon, déjà, Colette Magny n'est pas une mince affaire. Mais...
Non, ça c'est vrai.
Non, mais parce qu'on n'entend plus beaucoup Colette Magny dans les films. C'est pour ça que je dis ça. Non, mais je dis ça en souriant. Mais en tous les cas, je voulais quelque chose d'un peu éclaté. Je voulais pas... comme on fait un film comment dire, qui se passe dans un endroit précis où on n'a que de la musique entre guillemets folklorique. Donc voilà, ce procédé-là de musique qu'on dit diégétique, c'est-à-dire dont on identifie la source à l'image, m'a permis d'avoir une bande-son assez large en fait.
Frédéric Verrière, vous qui êtes compositeur, comment vous êtes arrivé à la musique de film de votre côté ?
Parce que tout simplement, je pense que si je n'avais pas été compositeur, j'aurais été réalisateur.
Ah, c'est vrai ?
Oui, c'est vraiment une passion pratiquement au tout début de l'adolescence. Il y avait par chance un tout petit ciné-club en bas de chez moi et j'ai vu un millier de films. J'ai vu autant de films que j'ai écouté de musique.
Je crois que c'est votre cas déjà. Vous saviez dès l'âge de 10-11 ans que vous seriez réalisateur ?
Non, je ne savais pas, mais je fantasmais plein de trucs. Je voulais aussi être footballeur, mais ça n'a pas marché. Mais ça me semblait quand même très très loin. Mais c'est vrai que c'était un fantasme. Ouais.
Le rendez-vous extérieur.
Michel Hazanavicius, Frédéric Verrier, on vous retrouve dans quelques instants. Mais tout de suite, c'est le questionnaire autoportrait du lundi de Manu Farine ce soir dans la série Les professionnels de la profession. C'est Patrick Chauvel, il est reporter de guerre, photographe, documentariste, écrivain et même comédien à l'occasion. Manu l'a rencontré chez lui samedi dans les locaux de la Fondation Chauvel qui est en cours de préfiguration. Au programme, s'est rassemblé quelques 350 000 clichés pour 50 ans de terrain de conflit. Questionnaire reporter Patrick Chauvel, Manu Farine.
Première expérience de terrain ?
67, la guerre des six jours. Moi, bon, j'étais pas journaliste, évidemment, j'avais 17 ans. Hein. Et Israël mobilisait. Et à un moment donné, il y a eu une pub d'Israël qui demandait des volontaires pour remplacer leurs soldats dans les champs, dans les kibbutz, parce que tous les hommes avaient été mobilisés. Et là, j'ai eu l'opportunité d'un voyage gratos. Et puis la guerre a éclaté. Et là, j'ai fait le mur avec deux, trois juifs qui étaient dans le camp. Moi, je n'étais pas juif, mais eux, oui. Et eux, ils étaient venus se battre, et on est remonté vers le front. Et donc j'ai assisté à quelques combats, j'ai fait plein de photos avec mon petit Leica. Je les ai toutes ratées. Donc ça, c'était la première expérience, le premier mort au combat, enfin, la première fois que je croise des journalistes sur le terrain. Donc pour moi, ils étaient une espèce de héros couvert de poussière sur les tanks. Et quand je suis rentré à Paris, j'ai compris que c'était un métier quand même, donc je suis rentré comme stagiaire au labo de François. Puis après, je suis parti à Saïgon en 68. Là, j'avais 18 ans, mais là, je savais servir de l'appareil photo.
Le jour où vous êtes devenu reporter de guerre ?
Au Vietnam, je m'amusais beaucoup. Les soldats américains à mon âge ont monté dans les hélicoptères, ont volé à 300 km/h au ras des rizières, avec la musique à fond. Et donc, tout ça était très amusant. J'étais évidemment totalement invincible. Et puis un jour, je suis tombé sur un prisonnier vietnamien. Et il m'a expliqué sa lutte, son combat. Et je ne l'aimais pas. C'était l'ennemi. Et à un moment donné, il a été remis à l'armée sud-vietnamienne et ils l'ont exécuté. Parce que nous, il fallait qu'on avance. Et l'officier américain, j'ai dit, mais vous n'allez quand même pas le... Puis nous, non. Mais les Vietnamiens entre eux, oui. Et on ne peut pas le garder parce qu'il faut qu'on avance. Et on ne peut pas le nourrir, on ne peut pas le laisser attacher à un arbre. Et on ne peut pas faire venir un hélicoptère pour lui non plus. Et là, d'un seul coup, je n'aimais ni le mort, parce que c'était quand même des gens qui me tiraient dessus, ni les Américains. J'étais tout seul. J'étais journaliste.
Le jour où vous avez pensé à arrêter ?
Jamais. Jamais, jamais, jamais.
La photographie que vous n'auriez pas dû prendre ?
Je les prends toutes. Je ne les publie pas toutes. Parce qu'une photo qui n'est pas forcément publiable à l'instant même où elle a été prise, parce qu'elle va provoquer plus de mal que de bien, il faut la faire quand même, parce qu'elle peut servir. On ne travaille pas que pour la presse, on travaille aussi pour la mémoire collective, pour le TPI, pour les livres d'histoire, pour les archives...
Un reporter qui a pu fonctionner comme modèle ou référence pour vous ?
Kessel. Pour moi, c'est le grand reporter comme Schindler. Ils écrivent, ils filment eux-mêmes comme caméraman et ensuite ils font des longs métrages de fiction. L'ultime reportage, c'est le film de fiction. Hein. En fait, on est tous acteurs. Quoi.
Un souvenir de terrain en Tchétchénie ?
Je suis tombé sur un caméraman tchétchène. Il n'y avait plus de chaussures. Il faisait moins 7. Il n'y avait plus d'électricité, plus d'eau, plus à bouffer. Enfin, c'est l'enfer. La ville était détruite à 80%, ça bombardait sans arrêt. Et il filmait avec une caméra. Et à un moment donné, je lui ai fait remarquer qu'il avait le cache sur le truc. Et on était en plein combat. Quoi. Et il me dit, je sais, mais je protège l'objectif. Je dis, certes, mais tu ne filmes rien. Il me dit, mais si tu remarques, je n'ai pas de batterie non plus. Et puis, je n'ai pas de cassette non plus. Je dis, alors qu'est-ce que tu fais ? Il me dit, bah, c'est mon métier, je filme. Et en fait, la presse tchétchène avait été tuée à 95%. Et ils ne savaient pas quoi faire d'autre que filmer sans film et sans batterie. Mais juste filmer, quoi. Notre métier de journaliste, c'est de raconter ce qui se passe et d'essayer d'expliquer la différence aussi. Il faut remettre les choses dans le contexte. C'est très, très difficile parce que, évidemment, nos photos arrivées dans Paris Match, qui sont étalées entre une pub pour Rolex et une pour Toyota, et puis ensuite une jolie mannequin à Saint-Tropez, c'est très, très hors contexte quand même. Alors que dans le contexte, ce caméraman, ce Tchétchène qui me parle dégorgé avec ses grands yeux noirs, Doudaïev qui m'explique comment ils vont vaincre les Russes, et ça paraît presque normal sur le terrain. D'ailleurs, un des dangers d'être sur un conflit longtemps, très enfermé comme à Grozny, où il n'y avait pas de moyen de sortir, c'est de perdre justement la distance avec le sujet et de rentrer dans la violence pure dans les images, quoi, qui ne veulent plus rien dire en fait, si ce n'est la violence, quoi. Et Newsweek, souvent, il sentait ça. Et il voyait ça à mes photos et il demandait à Sigma, il disait, il faut qu'il sorte, maintenant. Il est passé de l'autre côté.
Patrick Chauvel, merci.
Michel Azanavicius, une réaction à ce que l'on vient d'entendre ?
C'est hyper dense, vous auriez dû lui laisser une heure. Parce que, mais les thèmes qui brassent comme ça en trois minutes, c'est hyper profond. Il parle de plein de choses, de la fascination de la guerre, du sentiment d'invincibilité, de la normalité, de la confrontation avec ce que nous considérons comme la vie normale. Et puis la question du témoignage.
Je voyais réagir par rapport à cette histoire de reporter tchétchène avec
Magnifique.
Le cache sur la caméra sans batterie.
Il y a des histoires comme ça. Les situations de guerre provoquent des histoires qui sont hallucinantes. Il y a des histoires comme ça aussi au Rwanda qui sont dingues et qui ont la force de la réalité. C'est-à-dire qu'on n'oserait même pas écrire quelque chose comme ça. Mais c'est à la fois c'est terrible parce que c'est magnifique et en même temps c'est ce qu'on ne souhaiterait à personne. C'est-à-dire que c'est des situations infernales au sens littéral du terme. Je comprends que ça fascine ces gens, les reporters de guerre, les photographes de guerre, etc. ont un rapport assez dingue à leur métier, je trouve. Et ils ont une vie assez dingue. Je ne qualifierais pas ça d'héroïque, mais il y a un truc fascinant, je trouve, là-dedans, dans le besoin d'adrénaline. Et puis en même temps, quelque chose qui est irréprochable, mais irréprochable est un lapsus intéressant, mais irréprochable dans le rôle social qu'ils ont de l'information. Il dit aussi quelque chose d'assez intéressant, je trouve, sur l'immédiateté de leur travail, c'est-à-dire quelle contextualisation, quand il dit qu'une photo peut servir pour quelques années après, qu'elle n'aura pas la même... elle n'aura pas la même histoire, elle ne sera pas vue pareil. C'est vrai que c'est une des questions que moi je me suis posé en faisant un long métrage de fiction 15 ans après les événements. C'est-à-dire que c'est ce recul-là, et la fiction permet... de ramener ça à
non, mais il parle de films de fiction, justement. Il parle de films de fiction dans ce...
Mais c'est effectivement... La fiction vous permet d'organiser les événements, vous permet d'organiser la vie pour évoquer quelque chose qui vous semble être la vérité d'un événement. Et avoir 15 ans de recul, ça vous permet aussi de faire le tri, sur les témoignages, de savoir qui vous avez envie d'écouter et pourquoi, et finalement, qu'est-ce qui a tenu à l'épreuve du temps. Donc, on a montré le film à beaucoup de reporters de guerre. J'ai voulu le montrer à Patrick Chauvel, mais je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas vu, mais il a été invité, évidemment. C'est quelqu'un de mythique, Patrick Chauvel, pour tous les reporters de guerre. C'est une espèce d'icône. Il représente pour beaucoup ce que Joseph Kessel représente pour lui-même. Tous étaient, comment dire, ils ont tous validé le film en termes de justesse et en termes de réalisme, entre guillemets, ce qui pour moi était très valorisant.
Vous l'avez montré à des journalistes russes ?
Alors, on l'a montré à Cannes, et à Cannes, il y a des Russes.
Ça s'est mal passé, j'imagine ?
Pardon ?
Ça s'est mal passé avec les journalistes russes ?
Pas pour tous. Il y en a qui ont effectivement sifflé le film, mais le lendemain, j'en ai rencontré qui, au contraire, étaient vraiment hyper reconnaissants et qui mettaient le film très très haut. Pour une raison simple, ils disaient l'histoire du soldat russe n'est pas caricaturale. Ce n'est pas un film qui dit que les Russes sont tous des monstres.
Non, justement. Il montre comment on les a construits.
Exactement. Et au départ, c'est un être humain. Et ils étaient très reconnaissants de ce fait-là. Ils me disaient, en gros, nous, en Russie, je ne vois pas comment on peut faire un film comme ça. Et je ne vois pas comment un étranger peut faire un film comme ça. Et en fait, il était très reconnaissant. Pour lui, c'était un peu miraculeux que ce film arrive. Je ne pense pas du tout que les Russes, dans leur immense majorité, rejetteront le film. Encore faut-il qu'ils puissent le voir. Mais ce que je dis de l'armée russe, les Russes en sont malheureusement bien au courant.
Le rendez-vous.
addio, mai che Dio si spento.
Ah, la la la.
Tu la resta.
Amen.
Dove sarà?
Plateau fin de l'opéra avec vous, Frédéric Verrière, compositeur. Vous signez la partition de Mimi, scène de la vie de Bohème, c'est en ce moment, hein, au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris, dans une mise en scène de Guillaume Vincent. Le livret est signé Bastien Gallet. Le spectacle, comme son nom l'indique, est une inspiration de la Bohème de Puccini. En fond de scène, un ensemble de 10 musiciens. Le décor est composé de matelas avec quelques télévisions et puis des couvertures ultra kitsch. Lucille Comeau.
Il y a 6 interprètes sur scène, dont 4 chanteurs lyriques et 2 chanteuses plutôt pop, Camélia Jordana et Caroline Rose ici présentes. L'histoire, c'est la tragédie des amours de Mimi, la brodeuse, et du poète Rodolphe dans le Paris bohème des années 1830. Mais votre Mimi, à vous, elle est double, à la fois chanteuse lyrique et chanteuse pop. Les airs ultra connus, qui sont presque des tubes maintenant de la bohème, glissent vers le rock, l'électro, le cabaret, pour une vaste exploration de cet opéra, de la fin de l'opéra.
Alors ce thème d'exploration, il est de vous, hein, Frédéric Verrière, parce que vous présentez le projet comme une aventure dans l'opéra de Puccini. Quelle vision avez-vous de la bohème avant même de commencer, sur le plan musical, c'est-à-dire sur sa partition?
Pour moi, c'est l'équivalent d'un contexte. C'est-à-dire, la partition, la structure est là. On rentre dans cet espace acoustique et poétique, mais une fois qu'on est rentré dans cet espace-là, on a toute la liberté de le réinventer. Mais la structure est là et présente comme une... Voilà, on est, le librettiste qui m'a aidé à réécrire la bohème dit qu'on est à la fois à l'intérieur de la bohème et étranger et en même temps en connivence avec cette bohème.
Lucille.
Le spectacle commence par une rêverie autour des héroïnes de Puccini. On retrouve sur scène Tosca, Mrs. Butterfly et aussi la Fanciulla dell'Ouest. Et on reconnaît plusieurs airs de ces 3 opéras qui sont devenus des tubes. Techniquement, musicalement, c'est quoi un air de Puccini si vous deviez en décortiquer rapidement les mécanismes?
C'est tout ce qu'on veut. On est absolument libre de faire ce qu'on veut avec Puccini. C'est ce qui plaît sans doute, ce qui déplaît fortement aux spécialistes. Mais pour reprendre le propos de Michel, je crois vraiment que cette liberté nous permet d'écrire, non pas pour un public de spécialistes qui ne nous intéresse pas, mais pour ce que Badiou appelle un public de hasard. Et par conséquent, au hasard de nos pérégrinations artistiques, de nos désirs propres, on va être amené à côtoyer différents types musicaux, toujours dans ce cadre qui, du coup, devient une contrainte, mais je pense que la contrainte en art est assez importante. Donc on a une contrainte très forte et en même temps cette contrainte libère beaucoup d'inventivité, de créativité. C'est le paradoxe, mais on aime travailler ce paradoxe-là.
Alors au début, plutôt au milieu du spectacle, un des chanteurs vient en avant-scène livrer un petit laïus sur la bohème qui commence ainsi. Puccini est le premier compositeur de la fin de l'opéra. Qu'est-ce que ça a pu vous inspirer, même techniquement, dans l'écriture de la partition ?
Il faudrait demander à Bastien, qui est un universitaire et qui ne pense pas exactement de la même manière que moi. Mais je voudrais revenir peut-être 2 secondes sur la scène qu'on a entendue.
En ouverture du plateau.
En ouverture du plateau. Elle est assez représentative, assez cinématographique aussi, puisqu'en fait, on a Puccini en musique diégétique d'une certaine manière. Et sur le plateau, on peut imaginer que les protagonistes écoutent... la musique sort d'une chaîne audio ou peu importe, d'une oreillette. Et la coïncidence a lieu grâce au plateau entre cette musique de Puccini qui est diffusée pratiquement telle qu'elle, de temps en temps elle est bouclée comme peuvent le faire les musiciens électro aujourd'hui, et coïncide avec l'entrée de Camélia sur scène qui dit la même chose de manière, disons, très simple et contemporaine, sans chanter lyrique. Donc les personnages il y a une sorte d'affinité entre le récit d'origine et son actualisation. Et ce jeu va encore plus loin, puisqu'on fait aussi rentrer les chanteurs lyriques de notre distribution, qui viennent remplacer les chanteurs qui étaient dans l'enregistrement. Donc voilà comment on travaille.
À plusieurs niveaux et dans une suite de mise en abîme.
C'est ça.
Michel Hazanavicius, vous êtes amateur d'opéra ?
Oui. Oui, oui, mais je, alors, par contre, je ne suis pas du tout universitaire, mais j'aime beaucoup aller voir des pièces à l'Opéra Garnier, à l'Opéra Bastille. Je découvre. J'aime beaucoup. Mais alors, par contre, j'ai des goûts très, très classiques. Enfin, très de base, quoi. Mais ouais, non, j'aime beaucoup.
Puccini, c'est déjà de base, oui.
Oui, oui. Non, mais
Puccini a intéressé les cinéastes depuis longtemps.
Hein. L'opéra, d'une manière générale.
Ah oui, Coppola disait que c'était grâce à l'opéra que le cinéma avait pu apparaître.
Le parrain.
Donc la coïncidence avec la technologie et puis le.
Mais non, j'aime beaucoup. L'année dernière, ou il y a deux ans, ils ont. Il y a Cavalleria Rusticana de Mascagni qui était. Ouais. Ouais, qui était j'ai beaucoup aimé. Pagliacci, j'aime beaucoup.
Hein. Et signer une mise en scène d'opéra, c'est quelque chose qui vous a déjà tenté ?
Eh bien, Pagliacci, quand je l'ai vu, je me suis dit, je ferais bien Pagliacci, ouais. J'aimerais. Ouais, Pagliacci en film, ça me plairait bien, ouais.
Lucille.
Frédéric Verrière, vous êtes venu avec deux musiciens de Mimi, Caroline Rose, qui est une chanteuse franco-allemande entre rock, metal, pop et grunge, on va dire. On la connaît ici un peu en France pour avoir participé à l'émission The Voice. Elle est accompagnée de Jean-Yves Ézic au piano pour l'air de la comtesse Gechwitz, une réécriture d'un air extrait de l'opéra Loulou d'Alban Berg avec plein de trucs dedans.
Je me suis amusé. Toute la thématique vient de Puccini, mais ça a été réarrangé comme si Kurzweil était arrivé entre-temps.
On les écoute tout de suite en direct dans le studio 108. C'est à vous.
Süßes Herz, einen Kuss, einen Kuss, einen Kuss, komm, 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 komm! Durch dieses Kleid empfinde ich deinen Wuchs wie Musik, wie friedlich sich die beiden Schlanken ribbeln, indem ein Dennett schon gleichkommt, bis die launische Gebieterin erwacht und die beiden Nebenbuhler wie zwei Pole auseinander weichen. Dieses reizende Anschwellen, ein Cantabile, Cantabile. Komm, komm, süßes Herz, komm, komm, wenn deine beiden großen Kinderaugen nicht wären, müsste ich dich für die abgefeimteste Dirne halten, die je einen Mann ins Verderben gestürzt. Du hast mich um den Verstand gebracht. Dieses Knie ein Mysterium. Einen Kuss, süßes Herz, einen Kuss, einen Kuss! Das gewaltige Antanzen der Wollust.
Studio 108 accompagné par Jean-Yves Ézic, pardon, au piano, dans l'air de la comtesse, extrait de Loulou retravaillé. On l'entendait, il y a quelque chose de cabaret dans cette voix-là, dans votre manière d'écrire aussi en général pour le spectacle Frédéric Verrière. Je sais que vous partez beaucoup de la voix des interprètes. Qu'est-ce que cette voix-là, la voix de Caroline Rose, pardon, vous a permis d'écrire en particulier ?
Disons que ça facilite beaucoup les choses parce que tout est possible avec elle. Donc
c'est gentil.
On peut... Vous voyez bien qu'il y a un bariolage de style rien que dans ce petit extrait qui n'est pas forcément représentatif de tout l'opéra, hein, parce que Voilà, on joue avec énormément de styles. Mais voilà, c'est quelqu'un qui peut caricaturer une voix d'opéra, qui peut aller vers le death metal, qui peut avoir une voix de cabaret type Broadway. Voilà, donc c'est une matière riche.
Comment vous êtes emparée de cette partition, Caroline Rose ? C'est-à-dire, quelles étaient les indications de Frédéric Verrière ?
En fait, ce qui est très très bien dans ce travail avec Frédéric, c'est que j'ai eu l'impression, en arrivant dans le projet, qu'il avait déjà vachement réfléchi à ma voix. Et en fait, il y avait très peu d'indications, mais c'était surtout un travail commun. Il est aussi venu me voir en concert avant qu'on travaille ensemble, ce qui n'est pas forcément toujours le cas avec les compositeurs. Et on avait beaucoup discuté. Et,
sur quoi ?
Sur la musique en général, qu'est-ce qu'on écoute, c'est quoi pour nous de décloisonner les styles. Moi-même, je viens du métal, mais je fais de la pop, je fais The Voice, mais en même temps, bah, je suis à France Culture. Enfin voilà, je suis un peu partout. Et je comprends, j'ai tout de suite senti une connexion avec lui à ce niveau-là, tant musicalement que humainement et artistiquement aussi, quoi.
Frédéric
oui,
Verrière.
Disons que c'est représentatif du fait qu'il y a un aspect du travail qui est rigoureux, c'est-à-dire on est strictement dans la partition de Puccini, mais en même temps on est là pour avoir des sortes de délires fantasmagoriques sur une matière unique. Donc cette matière unique unifie le spectacle et lui donne tout son sens. Mais à partir de là, tout est possible et par conséquent, toutes les digressions sont possibles. De toute façon, elles sont réunies par cette relecture de Puccini.
Alors, justement, en parlant de réunification, Lucille.
Comme tous les jours, on demande à nos invités de venir avec un son qui les a marqués. Et vous, Frédéric Verrière, vous avez choisi ça.
Deux sons.
J'ai mal, oui. J'ai mal. Est-ce que c'est ça l'amour ?
Est-ce que l'amour fait mal ?
Est-ce que l'amour fait mal ?
Oui, l'amour fait mal.
Oui, ça fait mal.
Comme les grands oiseaux rapaces, ils planent au-dessus de nous. Ils s'immobilisent et nous menacent. Mais cette menace peut être aussi une promesse de bonheur.
Tu es si belle. Quand je te regarde, c'est une souffrance.
Pourtant, hier tu disais que c'était une joie.
C'est une joie et une souffrance.
Oui, oui. Oui. Oui, 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 oui.
Je te crois.
Oui, oui.
Frédéric Verrière, identification de ce son et la raison pour laquelle vous l'avez choisi.
C'est ma passion pour Truffaut qui vient de tout début de l'adolescence. Et voilà un homme qui m'a fait hésiter entre écrire de la musique ou réaliser des films, ça c'est certain.
On a ici le croisement donc de La Sirène du Mississippi,
oui.
Et du Dernier Métro.
C'est ça, Truffaut l'a réutilisé dans cette mise en abîme de la pièce dans le film. Il a réutilisé cette scène qui est la dernière scène de La Sirène du Mississippi qu'il a réutilisée dans Le Dernier Métro.
Autour de cette citation, c'est à la fois une joie et une souffrance.
C'est ça, et c'est à mon avis très proche du projet de Puccini. La bohème, c'est cette histoire-là. Ce qui nous a frappé quand on a étudié la bohème vraiment de près, c'est qu'on pensait pouvoir parler beaucoup de qu'est-ce que c'est que d'être un jeune artiste. Pas tellement le côté, disons, nous avons froid parce qu'on vit pauvrement en tant que jeune artiste.
Ça, c'est la bohème.
C'est ouais. Pas ce qui nous a passionnés, mais par contre, ce qui nous passionne depuis toujours, c'est qu'est-ce que c'est que la création artistique et qu'est-ce que c'est que d'être un jeune artiste, c'était en fait quelqu'un qui a un potentiel énorme mais qui n'a rien fait. Et il y a une boutade dans le livre qui a tellement marqué tout ce 19e siècle dans le livre de Murger, où il dit « finalement, je m'intéresse plus à l'or qu'à l'art. » L'or, L-A-U-R-E. Et c'est quelque chose que j'ai vécu et qu'Antoine Doinel aussi vit d'une certaine manière dans L'amour à 20 ans, qui est aussi un roman assez... Enfin, un court-métrage assez ouais. Cruel sur l'amour. Comme tout... Enfin, voilà, la femme d'à côté aussi. Enfin, Truffaut est toujours très proche de cette question de la cruauté en amour.
Truffaut pour vous aussi, Michel Hazanavicius. Je suis obligé de faire un geste, en fait, chaque fois.
Oui, c'est bien, ça me va très bien. Truffaut, alors moi, j'ai pas une passion. Ouais. J'aime bien Truffaut, j'ai pas une passion. Par contre, très, très musical. Delerue, Herman, Vivaldi, etc. Mais le cinéma, sur votre citation, je me disais, c'est le combat entre l'or et l'art, mais L'OR, tout simplement. Enfin, le cinéma est vraiment entre les deux, quoi. C'est l'éternel combat entre l'industrie et l'artistique.
La presse tchétchène avait été tuée à 95%. Et ils ne savaient pas quoi faire d'autre que filmer, sans film et sans batterie. Quoi. Mais juste filmer. Quoi.
Merci à nos invités. Michel Hazanavicius, The Search, sortira en salle mercredi prochain. Frédéric Verrière, Mimi, scène de la vie de Bohème, c'est jusqu'au 26 novembre au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris. Le 14 et le 15 janvier à Reims, puis en tournée à travers la France et en Europe. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain.
Et si on colle aux Romains une bonne raclée générale ?
Voilà, c'était ça mon idée.
Ah, ça va pas être la même limonade, là.
Demain, ce sera Gaulois et Dragons avec Alexandre Astier et Eric Lhomme. Des annonces, Hippolyte ?
C'était Le Rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Lucille Comeau, Benoît Lagan, Aïssatou Ndoye et Hippolyte Babilote, Journal de la Culture en Zoé Sfez, à la prise de son Alex Dang et Tristan Gratalon, et à la réalisation Thomas Beau. Vous pouvez réécouter, podcaster et commenter l'émission sur le site franceculture.fr et rejoindre la grande famille du Rendez-vous sur les réseaux sociaux avec le hashtag RDV.